Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour le 315e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de la saison 2024-2025 et comme je le disais la semaine passée, ce sont essentiellement l'orchestre et l'opéra national du Capitole qui nous offrent des événements musicaux en ce moment. Lors de notre précédent numéro, nous avons présenté la production du Vaisseau Fantôme, actuellement à l'affiche du Théâtre du Capitole. Les premières représentations ayant eu lieu, nous allons pouvoir y revenir avec ceux qui ont accepté encore une fois de participer à cette émission. Bienvenue à Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Et bienvenue à Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Sans plus attendre, nous allons donc nous replonger dans l'actualité musicale des derniers jours. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Merci Robert et Serge d'être encore au rendez-vous cette semaine. L'Orchestre National du Capitole était en concert le jeudi 15 mai à la Halle aux Grains, ce qui a permis au public toulousain de découvrir deux musiciens ce soir-là, invités pour la première fois à se produire avec notre cher ensemble symphonique. Serge était bien sûr présent dans la salle et il va d'abord nous rappeler qui étaient ces deux artistes. Il y avait un violoniste et une chef d'orchestre.
Voilà, on peut parler de jeunes invités puisque la chef d'orchestre française s'appelle Marie Jacot. Et donc, elle est née en 1990, c'est une jeune chef, effectivement. Et le soliste était le violoniste ukrainien Bohdan Lutz, qui n'a pas 20 ans. Donc, c'est vraiment deux jeunes invités qui animaient ce concert. Mais il faut préciser que ce concert a été précédé par l'intervention du représentant syndical de l'orchestre, qui est Jean-Baptiste Jourdain, nouveau représentant, puisque l'ancien a pris sa retraite, qui a voulu s'adresser au public, au nom des musiciens, bien entendu, pour quand même le tenir au courant des difficultés rencontrées à propos du financement des activités musicales et culturelles, même en général. Il a été d'ailleurs très applaudi, le public est très ardent pour que les activités musicales qui sont tout de même d'une envergure étonnante à Toulouse, une belle envergure. C'est pas pour rien que Toulouse est la ville de musique selon l'UNESCO. Tout le monde espère que ça dure, hein, effectivement.
Alors Robert, vous voulez ajouter quelque chose?
Mais juste, je voulais rebondir comme ça, je le ferai pas lorsque j'interviendrai, mais il a été de même pour la première des Vaisseaux Fantômes.
C'est
donc,
ça.
Puisque donc il y a une représentante de l'orchestre et une représentante des chœurs qui sont venus dire exactement ce que tu viens de si bien exprimer sur
des craintes, les craintes,
la peur de voir les capacités en matière de culture de la métropole toulousaine diminuer. Au Capitole également, leur discours a été amplement applaudi par le public.
Voilà, on espère que ça va continuer, comme on pourrait dire. Et donc, le concert lui-même, lui, il s'est ouvert sur l'unique et somptueux, on doit dire, concerto pour violon et orchestre en ré mineur de Jean Sibelius. C'est vraiment une œuvre formidable, l'un des grands concertos, alors on peut dire romantique ou post-romantique. Et ça a été un très beau moment parce que là, nous avons découvert un jeune musicien, Bohdan Lutz, qui est vraiment merveilleux dans son style musical, dans sa technique. N'oublions pas quand même, donc il est né en 2004, donc il a en fait 21 ans, et il est titulaire quand même du premier prix du concours Long Thibaud 2023, ce qui est tout de même une sacrée référence.
Il a gagné, il me semble d'ailleurs, en jouant le concerto pour violon de Sibelius.
Avec ça, exactement, c'était
son porte-bonheur.
Son œuvre du concours. Donc, il a joué ça avec vraiment beaucoup de finesse, d'émotion, d'intensité, une technique parfaite évidemment. Voilà, il y avait une sorte de force incantatoire dans ce concerto, surtout ce premier vaste mouvement. Ça a été un grand moment. Et puis, alors, où on a pu apprécier la beauté de son jeu, c'est que le premier mouvement de ce concerto contient un grand nombre de courtes cadences où il joue tout seul. L'orchestre se tait, il joue seul, et ça, c'était magnifique. Et là, le dialogue avec l'orchestre, les échanges étaient effectivement parfaits, avec un très bel équilibre. Il a eu un immense succès. Il a été très applaudi, au point que donc il est revenu plusieurs fois saluer, et puis il a joué un bis. Et ce bis, c'était le Caprice numéro 11 de Paganini. Bon, une œuvre très virtuose, mais pas que, donc avec beaucoup d'intensité et de beauté expressive. Un grand moment que l'exécution de ce concerto.
Eh bien, comme vous nous mettez l'eau à la bouche, nous allons le réécouter, ce Bodenlutz, dans le célèbre premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Sibelius. Le premier mouvement Allegro Moderato du concerto pour violon de Sibelius, toujours aussi poignant et magnifiquement joué ici par Bodenlutz. Et donc ensuite, l'Orchestre National du Capitole a joué, seul cette fois-ci, la Sinfonietta de Korngold sous la direction de Marie Jacquot. Eh bien, voilà une œuvre qu'on a très peu l'occasion d'entendre en concert. Absolument. Pour ne pas dire jamais. Et pourtant, je pense qu'elle le mériterait. Et c'était vraiment une bonne idée.
Oui. Alors, c'est une idée de la chef d'orchestre, donc. Hein. C'est elle qui l'a, non pas imposé, mais qui l'a proposé. Et ça a été accepté. Et alors, c'est une œuvre étrange. C'est une œuvre que Korngold a composée, il avait 15 ans. Hein. Donc, c'est vraiment une œuvre d'extrême jeunesse. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas du tout une œuvre légère. Et alors, je trouve que le titre même est trompeur. Sinfonietta, ça laisse imaginer une petite symphonie légère.
Diminutif, oui.
Ouais. Oui, eh ben, pas du tout. C'est d'une intensité, d'une ampleur orchestrale. D'abord, ça demande un très grand orchestre, avec un piano et un célesta dans l'orchestre. Et ces quatre mouvements, alors qu'ils ont des titres, hein, des titres en allemand, par exemple le premier, c'est « Fließend mit heiterem Schwung », c'est-à-dire « fluide avec un mouvement joyeux ». Vous voyez, ça indique déjà comment ça doit être interprété, et etc. Hein, avec un molto agitato, rasch und feurig, rapide et fougueux, et etc. Alors, c'est vraiment une intensité d'orchestration vraiment impressionnante. Hein, impressionnante. Par moments, c'est même tonitruant, carrément tonitruant. C'est le cas dans le premier mouvement, avec une animation, mais vraiment que soulignait la chef, hein, Marie Jacquot. Là, elle n'a pas hésité, elle s'est lancée à fond dans le caractère même violent parfois de cette orchestration et de ces mélodies, effectivement. Il y a des passages assez étranges. Par exemple, dans le troisième mouvement, il y a une association instrumentale bizarre. Il y a un duo entre le premier violon et la trompette. On imagine mal un violon joué avec une trompette. Eh ben oui, eh ben ça marche très bien. Bon, alors ça, c'était, pardon, dans le deuxième mouvement. Et dans le troisième mouvement, là, l'ouverture de ce troisième mouvement, c'est un solo de cor anglais qui est d'une beauté extraordinaire, avec une mélodie de cette nostalgie que l'on peut imaginer. Donc, et puis enfin un final, alors un final ravageur, on peut dire, avec des crescendo qui explosent, hein, bah, vraiment. Et là, la direction de Marie Jacquot a pris toute son extension en quelque sorte. Vraiment, elle a dirigé avec beaucoup d'intensité, de vigueur et d'ardeur. Et donc, elle a eu une ovation très chaleureuse de la part du public. Donc, c'était une découverte, effectivement, pour la plupart des mélomanes qui étaient présents.
J'imagine.
Pour ma part aussi, c'est la première fois que je l'entendais en concert. Hein, je n'avais jamais entendu cette œuvre. C'est une œuvre qui mérite d'être reprise.
Eh bien, tant mieux si elle a pu être jouée à Toulouse. Et pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient découvrir cette très belle Sinfonietta de Korngold, je vous propose d'en écouter un extrait. C'est le premier mouvement, Fließend mit heiterem Schwung. Le premier mouvement, Fließend mit heiterem Schwung, de la Sinfonietta de Korngold, qui était donc au programme du concert de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Marie Jacquot. Le prochain rendez-vous avec la phalange toulousaine est prévu ce samedi 24 mai à 18h. À la Halle au Grain, c'est un happy hour, c'est même le happy hour du chef, puisqu'il va être dirigé par Tarmo Peltokoski. Nous allons vous le présenter en seconde partie d'émission. On se déplace maintenant de la Halle au Grain au Théâtre du Capitole, où ont commencé vendredi les représentations du Vaisseau Fantôme. Je rappelle que cette nouvelle production du fameux opéra de Richard Wagner est mise en scène par Michel Faux et qu'elle est à l'affiche jusqu'au 27 mai. Il reste 3 représentations pour la découvrir, les 22, 25 et 27. Robert vous l'a présenté la semaine dernière et il a assisté à la première. Nous sommes donc impatients de connaître vos impressions. On vous écoute, Robert.
Écoutez, franchement, sans bonne, voire plus. Alors simplement, on n'avait pas vu le vaisseau fantôme accosté sur les quais de Tunis depuis le 18 février 1993. Quand même, cela fait longtemps, trop longtemps pour les Wagneriens et pour tous les amateurs d'opéra, mais c'est comme ça. Et alors, ce retour se fait dans le cadre d'une nouvelle production. Une nouvelle production aujourd'hui, c'est presque du luxe, donc un retour qui se fait en majesté. Et en plus, avec, à l'origine, tous les interprètes prenaient leur rôle. Et à une exception près, on va y revenir, ça a été le cas, sauf le personnage de Senta, la cantatrice qui, elle, a déjà chanté et qui est venue en remplacement d'une autre cantatrice qui s'est retirée de la production il y a à peu près une dizaine de jours avant la première. Donc, en ce soir de première, on est le 16 mai, la salle est bien évidemment bondée, mais cela devient une habitude comme à la Lograin. Hein.
Absolument.
Et Serge, c'est ce que tu me confirmes. Et le triomphe est total, et encore une fois, on pourrait dire que ça devient une habitude comme à la Lograin, j'ai l'impression.
Tout ce qu'on peut dire, c'est pourvu que ça dure.
Voilà. C'est-à-dire. Alors,
c'est pas le hasard non plus.
Voilà.
Mais non, c'est pas le hasard non plus.
Il n'y a pas de hasard, parce que le public toulousain n'est pas plus bête que notre public. Voilà, peut-être moins bête, certainement, mais bon, parce qu'il a l'habitude, il a été formé à entendre de belles choses à Toulouse, autant à l'Holograin qu'au Capitole.
Oui, absolument. Ben, donc, et puis c'est un public passionné.
Et c'est un public passionné, voilà, exactement.
Ouais.
Le chef d'orchestre, vous savez, dans l'opéra, s'il n'y a pas un grand chef d'orchestre, cela risque de tourner vinaigre. Et donc, c'est un véritable pensionnaire.
Oui,
répertoire germanique du Capitole, et qui s'en plaindrait d'ailleurs, le maestro allemand Frank Bermann, qui tient la barre, pardon, mais je n'ai pas pu résister, d'une main ferme, je vous en prie, d'une main ferme et souple à la fois, parce qu'il sait combien c'est. Attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas parce que le vaisseau fantôme fait que 2h30. C'est pas facile à chanter, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout. Et même peut-être sur certains rôles, bon, Wagner n'a pas été au mieux de sa forme lorsqu'il a écrit les parties vocales. Voilà. Donc, Frank Bermann sait parfaitement que tous ses interprètes, mis à part, j'y reviendrai, le personnage de Senta, tous chantaient leur rôle en public pour la première fois. Donc, il sait combien c'était la première. Deux, la première pour eux également dans leur rôle. Donc, il a été très, très attentif à les accompagner.
Il est au petit soin.
Mais cela n'a pas empêché, tout de même, hein, de donner à cette partition que moi, je qualifie de transition. Hein, vous savez,
oui, vous
on en a parlé.
Voilà.
Je ne vais pas revenir là-dessus. Toutes les couleurs et toutes les dynamiques du drame, du sombre drame, n'est-ce pas, qu'elle sous-tend. Et encore une fois, évidemment, l'Orchestre National du Capitole a été exemplaire dans ce genre d'exercice. Mais avant de passer au soliste, si vous permettez, et à la mise en scène, je voudrais tirer mon chapeau et saluer bien bas notre phalange chorale, dirigée par Gabriel Bourgoin.
D'autant plus qu'elle est très importante.
Elle est très importante, au point qu'ils ont été obligés de rajouter une quinzaine de supplémentaires, parce que sinon, évidemment, au troisième acte, il y a un problème.
Oui.
Parce qu'il y a deux grands cœurs d'hommes, hein, qui s'affrontent, mais qui s'affrontent véritablement.
Ah oui.
D'un côté, les marins de Dalan, d'autre côté, les marins maudits. Et donc, ils ne sont pas les mêmes. Hein. Ils ne sont pas habillés pareil, ils ne sont pas au même endroit sur scène, etc. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de cœur. C'est vraiment très, très difficile à chanter. Et puis, il faut que ça fasse peur, littéralement. Gabriel Bourgoin les fait travailler depuis près d'un an là-dessus. Hein. Donc, ça demandait beaucoup de travail. Eh bien, chapeau, mais vraiment... chapeau bas, ils ont rendu un hommage formidable à ce maître des chœurs que fut Wagner. Hein. Puissance, nuance, discipline, la dynamique, la musicalité, la précision des attaques, tout est là pour nous faire vivre cette légende norvégienne, et je le dis encore une fois, je le répète, jusqu'à cette fabuleuse confrontation finale au dernier acte qui a donné le frisson à tout le monde. Alors, ensuite, la production. Vous l'avez dit, Eric, c'est une nouvelle production signée pour la mise en scène par Michel Faux.
Son premier Wagner.
Son premier Wagner, il a rêvé. Et Christophe
oui.
Christie l'a fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça sera la dernière. J'espère que non, parce que vraiment, Michel Faux est un passionné de Wagner et de Richard Strauss. Alors, il s'est adjoint. Chaque fois, il change d'équipe, quasiment. Chaque fois. Michel Faux. Là, il voulait à tout prix faire un vaisseau fantôme assez proche, bien qu'on n'ait pas beaucoup de documents, assez proche de ce qu'il a dû être lors de la création en 1843. Il y avait de fortes chances pour qu'il y ait sur scène des toiles peintes, et donc il s'est adjoint les services d'un virtuose de la toile peinte et des décors, Antoine Fontaine. Et honnêtement, vous le verrez, vous ne l'avez pas vu encore.
J'ai pas vu encore et le.
Non,
le,
mais
production.
Vous allez voir.
J'ai vu les photos quand même.
C'est, mais,
et ça a l'air effectivement assez scotchant.
Absolument bluffant. Les costumes sont évidemment d'une beauté, c'est Christian Lacroix tout de même. Les costumes des marins, mais on dirait que les marins ont porté ce costume depuis 100 ans, alors qu'ils sont tout neufs. Hein. Mais c'est ça, le théâtre, c'est l'art de la magie. Hein. Et les costumes défileuses. Hein, voilà, ben je peux vous dire qu'elles sont toutes brodées avec une précision et une virtuosité, mais vraiment un savoir-faire magnifique aussi. Plus les lumières tellement importantes de Joël Fabin, et voilà. Et nous avons une production avec l'arrivée du vaisseau fantôme qui sort des dessous. Mais bon, on est dans Pirates des Caraïbes. Mais franchement, quoi, avec le Hollandais, les bras croisés, qui regarde le public, mais rien que d'en parler, j'ai encore le frisson. C'est absolument extraordinaire.
En tout cas, ce qu'on comprend, voilà, c'est que ce n'est pas une production low cost. Hein.
Et c'est quelque chose d'extrêmement lisible. Alors en fait, le pitch de la mise en scène de Michel Faux, c'est, bon, on le sait, Senta est un peu dérangée mentalement, parce que toute petite, Marie lui a chanté la balade du Hollandais maudit. Et c'est une balade qui raconte l'histoire de ce pauvre capitaine qui, à un moment, était en difficulté sur la mer avec son bateau et ses matelots, évidemment, et qui a osé affronter Satan et qui l'a mis au défi de le sauver. Mais évidemment, il y avait un prix à payer. Le prix à payer, c'est la damnation éternelle. Donc, il a été sauvé, certes. Mais alors, ce n'est pas la damnation éternelle, parce que Satan lui a dit, voilà, tous les 7 ans, tu accostes, et si tu trouves une femme qui te soit fidèle, mais la damnation tombera et tu seras sauvé. Et lui, tous les 7 ans, bon, il accoste, et jusqu'à présent, a priori, il n'a pas eu beaucoup de chance. Ça fait 3 siècles que ça dure. Et cette fois-ci, il accoste et il va rencontrer Senta. Et justement, Senta, elle fantasme sur un tableau qui représente le bateau du Hollandais maudit. Et donc, inutile de vous dire que les choses vont se passer comme elles doivent se passer, sauf que Senta a un fiancé officiel, Eric, qui est un chasseur dans un monde de marins, dont il n'est pas très, très apprécié, mais enfin, quand même, bon. Et
oui, voilà. Il y a des Eric qui ne sont pas très appréciés, ça existe.
Et donc, bon, il va se croire à un moment, alors que Senta est tombée follement amoureuse de lui, mais c'est un amour un peu mystique. Et à un moment, elle discute avec Eric, et de loin, le Hollandais croit qu'elle est revenue un peu avec Eric, et donc il casse tout, il rappelle ses marins, etc., etc. Et puis nous partons, c'est fini, c'est reparti pour 7 ans. Et alors qu'il monte sur le bateau, Senta va en haut d'une falaise et se jette dans la mer, qui évidemment est déchaînée, et elle est engloutie, mais, heureusement, comme elle lui dit, je te serai fidèle jusqu'à la mort, elle ne peut pas aller plus loin quand même, et donc, ben voilà, on va entendre à l'orchestre le thème, le fameux thème de la rédemption, qui, dorénavant, ce thème de la rédemption par l'amour, évidemment, sera le fil rouge de quasiment tous les opéras de Wagner, tous les opéras de Wagner. Et donc, vous allez voir dans cette production, au milieu d'une tempête déchaînée, tout d'un coup, on voit le Hollandais et Senta, bras dessous, s'élever vers les cieux qui sont en train de s'illuminer. C'est beau, comme l'antique, ça plaît beaucoup. Le spectacle a eu un triomphe mérité. Et si je puis ajouter, simplement avant de parler des solistes, que je trouve que le Capitole a été particulièrement intelligent en faisant une production comme celle-là. C'est une production, évidemment, où il n'y a pas de treillis, où il n'y a pas de Kalechnikov, où il n'y a pas de personnages nus sur scène, où il n'y a pas des fantasmes de metteur en scène que seul le metteur en scène arrive à comprendre encore. Donc, résultat, ça a plu, et c'est un spectacle que l'on reprendra, et j'en suis sûr. Avoir comme ça une production dans les cartons, on sait qu'on peut le reprendre facilement. Je trouve que c'est intelligent en termes de gestion. Voilà. Alors ensuite, ben, on va passer évidemment quand même aux chanteurs.
Alors le premier d'entre eux.
Le premier d'entre eux.
Alexey Isseyev.
Et c'est Alexey Isseyev. Bon voilà, c'est certainement l'un des grands barytons basses d'aujourd'hui et même de demain, parce qu'il est tout jeune. Hein. Parce que quand on entend la projection de cette voix qui domine dans tous les registres, que ce soit l'aigu, le médium ou le grave, l'ambitus est profond, la ligne de chant est châtiée, c'est extrêmement musical. Et puis les missions qui est d'une rondeur absolument exemplaire, et le timbre, ce timbre qui à mon avis le prédestine également à des rôles italiens, incontestablement. En plus c'est un artiste, je veux dire, il ne fait pas que chanter. Honnêtement, ça a été, alors je ne dirais pas le triomphateur, c'est pas ça, parce que tout le monde a eu son heure de gloire au salut, et en particulier dont la cantatrice suédoise Ingela Bringberg, qui est venue 10 jours avant la première, donc pour remplacer Marie-Adeline Henry, qui avait souhaité se retirer de la production. Alors avec elle, on a affaire à une voix tétralogique. Hein. On le sait, elle chante Brunhilde, elle chante Isolde, elle chante Electra, elle chante Turandot. Alors Senta, je ne dirais pas qu'elle se repose avec Senta, mais bon, disons, ça ne lui pose aucune difficulté. Elle aussi, elle a ce timbre vaillant, cet aigu d'airain qui traverse les chœurs, l'orchestre. Et elle connaît le rôle par cœur, musicalement, dramatiquement aussi. Et donc, ça se sent. Elle a eu un triomphe mérité. Autre triomphateur, c'est le ténor Airam Hernandez, qui chante le, entre guillemets, petit rôle d'Éric, dont le chasseur maudit, on pourrait dire.
Oui.
Bon, le pauvre, il est amoureux d'une femme et c'est un fantôme qui va lui enlever. Avouez qu'il y a une situation plus agréable.
Destinée terrible. Hein.
Destinée terrible. Et Airam Hernandez, ben, encore une fois, compose un personnage très touchant, très émouvant. Et pourtant, il a affronté une partition, mais d'une difficulté incroyable. C'est pour ça, quand je disais que tout à l'heure, lorsque Wagner a écrit la partie vocale d'Éric, je ne sais pas s'il s'est rendu compte de tout. Voilà.
De la difficulté qu'il a posée au chanteur.
Parce que parfois, il a des attaques en début de phrase sur des notes très aiguës. Bon, normalement, il n'a plus refait ce genre de choses, hein, Wagner, plus refait. Bon, ben voilà, Hernandez, grâce à toutes ses qualités, ben, est arrivé à franchir le cap, avec aussi une voix, avec des aigus dardés, des aigus puissant, mais également beaucoup de phrasés, beaucoup de couleurs dans son chant. Et il a une beauté de timbre absolument renversante, mais en même temps, l'émission est d'une parfaite rondeur. Voilà, donc, alors je rappelle que l'année prochaine, il participera à la création à Toulouse de La Passagère et qu'il sera le partenaire de Marie-Nicole Lemieux pour Carmen. Voilà, Jean Tedjen faisait le costume, en fait, un peu reluisant, hein, de Dalland, qui en fait, il vend littéralement sa fille au Hollandais, surtout lorsqu'il comprend que le Hollandais a la cale de son bateau remplie de trésors qu'il met bien sûr à sa disposition. Donc le Jean Tedjen est une basse française et il a un timbre de bronze, qui, vous savez, ces timbres chers aux clés de fave wagnériennes, bien sûr, le phrasé est large, ça aussi. C'est très important dans ce répertoire-là. La voix est ample, généreuse. Voilà. Il descend, mais alors sans aucun problème, jusqu'à un contre-fa grave. Je peux vous dire que tout le monde n'y arrive pas. Valentin Thiel est un pilote de luxe, si je veux vous dire. Ça a été l'un de nos derniers Tamino. Donc, il nous fait un premier acte vraiment à tomber par terre. Et Eugénie Jauneau, qui a été la dernière adalgise du Capitole, elle, évidemment, a beaucoup moins de moments et d'occasions de s'exprimer. On se souvient surtout de son adalgise. Voilà. Et puis, il y avait un acrobate qui faisait le diable, puisque tous les personnages de cet opéra, tous, sans exception, y compris les chœurs, parlent de Satan. Absolument tous. Donc Michel Faux a dit, pourquoi on ne mettrait pas le diable sur scène? Et c'est le diable qui amène le trésor du Hollandais entre les mains de Dalland. Alors si ça vous rappelle quelque chose, ça rien d'étonnant.
Oui, un petit peu, oui.
C'est la scène du jardin du Fosse de Gounod. Voilà, exactement. Mais c'est peut-être un hasard, hein, je ne sais pas.
On va écouter, pour illustrer tout ce que vous avez dit, on ne peut pas tous les écouter, bien sûr, mais on va écouter Ingela Bringberg, cette spécialiste du rôle de Senta, dans un extrait d'un des airs célèbres du Vaisseau Fantôme, La Ballade de Senta. Ingela Brimberg dans la ballade de Senta, un des airs célèbres du vaisseau fantôme. Je rappelle donc qu'il reste trois représentations au théâtre du Capitole, les 22, 25 et 27 mai, pour découvrir la production de l'opéra de Wagner, mise en scène par Michel Faux. A priori, il reste quelques places, donc ne perdez pas de temps. Si vous voulez assister, je pense que la présentation de Robert en donne vraiment très envie. Fin de cette première partie d'émission, une petite virgule musicale, et l'on retrouve Serge Chosy et Robert Pénavert pour l'agenda de Mélomanie. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et c'est encore au Théâtre du Capitole que nous ouvrons cette rubrique agenda avec le concert que les Sacs-Boutilles donnent ce samedi 24 mai à 16h. Depuis quelques années, l'ensemble de Cuivres Anciens de Toulouse s'y produit une ou deux fois par an pour nous offrir des programmes de musique ancienne, souvent très originaux. Et cette fois, ce sont les grands madrigaux de Monteverdi qui sont mis à l'honneur, Serge.
Oui, en effet, pas seulement, mais essentiellement. Hein. Il y a également une œuvre purement instrumentale de Dario Castello, sonate Decima Sesta, donc une sonate sur la bataille. Mais tout le reste est effectivement constitué de madrigaux, en particulier de Claudio Monteverdi, avec des extraits de l'Orfeo, la musica, puis Zefiro Torna, qui est un scherzo musical également, qui date de 1632, puis la fameuse Lettre amoureuse, et un confitebor de la Selva Morale, et puis une petite cantate courte, Tirsi e Clori, qui est également une œuvre de Monteverdi, et le concert s'achèvera après l'œuvre instrumentale de Dario Castello par le fameux Combattimento di Tancredi Clorinda, donc le combat de Tancredi Clorinda, une œuvre extraite des madrigaux guerriers et amoureux, une merveille absolue. Et pour cette interprétation de toutes ces œuvres, il y aura donc trois chanteurs qui participent au concert: Andrea Soare, soprano, Victor Sordo, un ténor, et Fulvio Zanassi, un baryton, vraiment des chanteurs très habitués de ce répertoire. Et puis ils seront associés à sept musiciens qui là aussi sont vraiment des musiciens qui connaissent parfaitement ce répertoire, puisque c'est autour de ce répertoire qu'a été créé, je le rappelle quand même, en 1976, oui, l'ensemble des Sacs-Boutilles.
Il y a près de 50 ans.
Et oui, ils vont fêter leurs 50 ans l'année prochaine. Et donc là, on aura vraiment, je crois, un très beau moment. La musique de Monteverdi est une pure merveille.
Ah, hein. Oui, oui. Eh bien, c'est un très joli programme qui devrait plaire à tous les amoureux de la musique baroque italienne du début du XVIIe siècle. Et vous disiez que cette musique est merveilleuse. Bien, voici un exemple avec cet extrait du madrigal Zefiro Torna de Monteverdi et il bel tempo rimena interprété par les Sacs-Boutilles.
Thank you.
El bel tempo rimena, interprété par les Sacboutiers, extrait du madrigal Zefiro Torna de Monteverdi, qui est au programme du concert que donne l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse ce samedi 24 mai à 16h au Théâtre du Capitole. Retour à la Halle aux Grains pour le concert Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole, celui que je vous ai déjà annoncé en première partie de l'émission, également ce samedi 24 mai. Mais à 18h, c'est donc le happy hour du chef, c'est-à-dire qu'il va être dirigé par Tarmo Peltokoski en personne, et le jeune chef finlandais nous a concocté un programme bien à son image, plutôt inattendu et hors des sentiers battus, avec un clin d'œil appuyé aux compositeurs de son pays natal et du nôtre. C'est un programme franco-finlandais ou finno-français, je ne sais pas comment il faut dire.
Oui, oui, on a l'impression qu'il a voulu associer les deux musiques et jeter un pont musical entre son pays d'origine et donc celui qui l'accueille. Alors, c'est amusant, il y aura deux œuvres de musique française. Tout d'abord, Le tombeau resplendissant, qui est une courte œuvre d'Olivier Messiaen. Et puis, en fin de concert, alors là, une œuvre plus consistante, La mer, de Claude Debussy. Donc, ça, c'est du sérieux, là. Hein. Et entre les deux, comme entre parenthèses, deux œuvres de compositeurs finlandais, avec d'abord Kaija Saariaho, la compositrice finlandaise qui est morte d'ailleurs récemment, enfin en 2023.
En juin 2023 et à Paris.
Et à Paris,
elle
exactement.
Aussi, il y avait un pont avec la France, entre la Finlande et la France.
Voilà, et donc l'orchestre jouera une œuvre qui s'appelle « Ciel d'hiver », une belle œuvre, hein, très poétique. Et ensuite, une deuxième œuvre finlandaise qui s'appelle « Helix » et qui est signée d'Esa-Pekka Salonen, qui est en fait plus connu comme chef d'orchestre.
Comme chef, oui.
Que comme compositeur, mais il est également compositeur. Et ce Helix, c'est l'inspiration de la forme musicale Anelis. C'est les deux compositeurs finlandais, il faut le préciser, appartiennent à un collectif qui s'appelle Korvat Auki, dont le nom signifie « ouvrez les oreilles ». Je gage que le public ouvrira ses oreilles cet après-midi-là.
Esa-Pekka Salonen, représentant éminent de la grande école de la baguette finlandaise,
qui
nous a apporté encore récemment donc Klaus Mäkelä et Tarmo Peltokoski.
Et Tarmo Peltokoski,
voilà.
Exactement.
Oui, alors simplement, Serge, tu parles de pont entre la Finlande et la France. Tu parles de cette compositrice décédée à Paris il y a deux ans, crois, et qui a écrit un opéra.
Oui, exactement.
Qui s'appelle L'amour de loin. Et c'est un opéra qui parle de quoi ? Le héros de cet opéra, c'est Joffre Rudel.
Oh, fantastique.
Hein. Il va falloir monter ça à Toulouse.
Ah oui.
C'est magnifique. Hein. Je ne vais pas raconter l'histoire de Joffre Rudel.
On
mais
peut
bon,
prendre
voilà.
des paris. Oui. On verra sans doute ça un jour sur la scène du Théâtre du Capitole. Voici un extrait du programme de ce Happy Hour du chef de samedi, La mère de Claude Debussy, dans une version de l'Orchestre National du Capitole, mais dirigée ici par Michel Plasson. C'est le début de L'aube à l'après-midi sur la mer. De l'aube à l'après-midi sur la mer, premier mouvement du poème symphonique La mer, composé par Claude Debussy, dans une version enregistrée par l'Orchestre national du Capitole sous la direction de Michel Plasson. C'est une des œuvres au programme du Happy Hour du chef que dirige Tarmo Peltokowski ce samedi 24 mai à 18h à la Halle aux Grains. L'Orchestre de chambre de Toulouse n'a pas terminé sa saison, lui, et dans le cadre de ses concerts mensuels du mois de mai, il se produit à l'escale de Tournefeuille les mardis 27 et mercredi 28, les deux fois à 20h30. Vivaldi et la mandoline sont au centre du programme de ces deux soirées, et quand il s'agit de mandoline à Toulouse, eh bien c'est plus souvent Julien Martineau qu'on invite comme soliste, donc c'est chez lui qui va officier ces deux soirs-là.
Donc avec deux concertos pour mandoline de Vivaldi, puis une œuvre de Scarlatti, mais transcrite pour mandoline par un certain Charles Avison, que j'avoue, je découvre, un concerto grosso pour deux violons, violoncelle. Ah non, et là, il n'y a pas de mandoline, excusez-moi, et cordes. Et puis, 12 concertos, mais c'est des très courts concertos, d'Achiesa, donc d'église, de Dall'Abaco, qui est un compositeur qui a beaucoup écrit pour la mandoline. Puis également un concerto pour mandoline de Caudioso. C'est toujours dans la même époque, hein, de 1675 à peu près à 1780, l'ensemble de ces compositeurs. Et puis, le concert s'achève avec 3 concertos de Vivaldi, avec Concerto Grosso alla Rustica, Concerto Grosso numéro 158, et enfin le Concerto pour mandoline en Ré majeur, qui est probablement le concerto le plus connu de Vivaldi pour cet instrument.
Effectivement, et d'ailleurs c'est ce petit bonbon que je vais vous proposer pour illustrer le joli programme de ces concerts, le fameux Largo du Concerto pour mandoline Hervé 93 de Vivaldi. C'est Julien Martineau qui le joue, il est accompagné par l'ensemble Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini. Le deuxième mouvement, Largo du Concerto pour mandoline Hervé 93 de Vivaldi, joué par Julien Martineau, accompagné par l'ensemble Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini. Il est au programme des concerts que le mandoliniste toulousain donne avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse les 27 et 28 mai à 20h30 à l'escale de Tournefeuille. Et Serge me faisait remarquer que c'est Manon Galli, la jeune violoniste toulousaine, qui va diriger ces deux concerts.
Et qui sera le violon solo.
Et qui sera le violon solo
du programme.
Alors, pour finir, nous voulions aussi vous annoncer le dernier concert de la saison 24-25 des grands interprètes. Il a lieu également le mercredi 28 mai à 20h à la Halle aux Grains. Une fin de saison en apothéose avec la venue de la Staatskapelle de Dresde, dirigée pour l'occasion par Tugan Sokiev, et avec la présence de la violoncelliste Sol Gabetta.
Ah oui, oui, c'est pas rien. C'est l'un des plus vieux orchestres du monde, on peut dire, puisqu'il a été fondé par le prince électeur Maurice von Sachsen en 1548. Excusez du peu, l'orchestre célèbre cette année son 475e anniversaire. C'est un orchestre qui a été dirigé par les plus grands.
C'est un des plus prestigieux d'Europe.
Les plus prestigieux même du monde, on peut dire.
Du monde, quand on est d'Europe, c'est du monde.
Oui, exactement.
Ah, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc, à titre d'exemple, Richard Wagner, qui l'a dirigé, il qualifiait l'ensemble de « harpe miraculeuse ». Donc c'est tout de même une sacrée appréciation venant de sa part. Il se trouve que Tugan Sokiev a noué une relation vraiment fusionnelle avec la Staatskapelle, et donc c'est lui qui la dirigera ici à Toulouse. Alors dans deux œuvres, avec comme première œuvre le concerto numéro 1 pour violoncelle et orchestre de Dmitri Shostakovich, et joué en soliste par une violoncelliste qu'on connaît très bien à Toulouse.
Elle est venue il y a encore quelques semaines avec l'Orchestre du Capitole.
Absolument. L'Argentine Sol Gabetta, qui est née en 1981 à Córdoba, en Argentine. Et donc c'est vraiment une grande musicienne qui se trouve être une amie d'enfance de Bertrand Chamaillot.
Ils ont exactement le même âge.
Ils ont exactement le même âge. Ils ont fait leurs études ensemble et ils jouent très souvent ensemble,
c'est
d'ailleurs.
Ils sont presque frères.
Oui, absolument. Oui, c'était incroyable. Dimitri Shostakovich, donc elle jouera le premier des concertos pour violoncelle. C'est une œuvre forte qui a été créée en 1959 par son dédicataire qui n'était autre que Mstislav Rostropovitch, et ça a été créé à l'époque à Leningrad, devenu Saint-Pétersbourg. Et puis en complément, on peut dire monumental, de ce concerto,
c'est pas un petit complément.
Ah oui, c'est pas vraiment quelque chose d'une ampleur exceptionnelle, puisqu'il s'agira de la plus emblématique des symphonies d'Anton Bruckner, la plus jouée, il faut le dire,
oui.
La septième en mi majeur, qui est souvent qualifié, comme la plupart des autres, de cathédrale sonore et mystique. Et donc c'est une œuvre d'une beauté orchestrale extraordinaire. Donc, alors je voudrais simplement rappeler, inciter les mélomanes qui ne la connaissent peut-être pas très bien, de bien écouter les toutes premières mesures. C'est un thème très mystérieux qui est appelé par le compositeur lui-même « Urnebel », c'est-à-dire le brouillard des origines. Donc ça a vraiment une connotation mystique extraordinaire, et ça confère toute sa magie à l'œuvre. Donc, un beau moment qui nous attend
avec l'orchestre idéal, avec un magnifique orchestre, et puis des chouchous du public toulousain, ça n'y a pas besoin de le dire, mais même Sol Gabetta fait partie quand même un peu de la famille. Eh bien, on va l'écouter, Sol Gabetta, dans une interprétation du très beau deuxième mouvement moderato du concerto numéro 1 pour violoncelle et orchestre de Dmitri Shostakovich. Le deuxième mouvement moderato du concerto numéro 1 pour violoncelle et orchestre de Chostakovitch, une version avec Sol Gabetta, la violoncelliste, est donc en concert avec la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Tugan Sokiev, mercredi 28 mai à 20h à la Halle aux Grains. Pour le dernier concert de la saison 24-25 du cycle des grands interprètes, la billetterie est en ligne sur le site www.grandsinterprètes.fr. Pour le concert Happy Hour du chef que donne l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 24 mai à 18h à la Halle aux Grains sous la direction de Tarmo Peltokowski. Les places sont à acheter et réservées sur le site www.onct.toulouse.fr. Pour le concert des Sacboutiers dédié au grand madrigaux de Monteverdi, ce même samedi 24 mai à 16h au Théâtre du Capitole. Et pour les trois dernières représentations du vaisseau fantôme au même endroit, les 22, 25 et 27 mai, la billetterie est en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Et enfin pour les deux concerts Vivaldi et la mandoline, donnés par l'Orchestre des Chambres de Toulouse et Julien Martineau, mardi 27 et mercredi 28 mai à 20h30 à l'escale de Tournefeuille, je signale que vous pouvez réserver et acheter vos places sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Je remercie une fois de plus Serge Chauzy et Robert Pénaver qui ont co-animé ce numéro avec moi. Et je remercie Jonathan Botello qui a assuré sa réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence comme d'habitude. Je n'oublie pas de remercier pour finir ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.